Voilà, merci Seigneur encore pour ce temps qu'il nous accorde autour de sa parole. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Notre Dieu est fidèle et il nous permet bien de sortir plus que vainqueurs de cette épreuve qui continue pour chacun d'entre nous puisque nous sommes encore en confinement, quoique il y a une évolution puisqu'il y a un déconfinement prévu la semaine prochaine. Alors j'aimerais en tout cas qu'on puisse se concentrer ce matin, bien sûr, sur la parole de Dieu. Et notre lecture du jour se fera dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, du verset 18 à 22. Jean, chapitre 21, verset 18 à 22. Et nous étudierons ensemble les paroles que Jésus a adressées un jour à son disciple Pierre. Alors nous lisons ensemble Jean, chapitre 21, verset 18 à 22. Jésus qui parle et qui dit à Pierre donc, « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « suis-moi. » Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» Alors en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Alors je pense que vous avez fait attention dans ce texte que nous venons de lire, que Jésus a invité donc Pierre à le suivre à deux reprises. À la fin du verset 19, quand il lui a dit « suis-moi » une première fois, et puis à la fin du verset 22, quand il insiste en lui disant « toi, suis-moi ». Car voyez-vous, Jésus, quelque part, a voulu que Pierre comprenne bien l'importance de son invitation. Car finalement, suivre Jésus est un élément clé, je dirais même un élément capital de la vie chrétienne. Certaines personnes se disent chrétiennes, mais ne veulent pas en aucun cas suivre Jésus, et ça c'est juste impossible. Car tout véritable disciple de Jésus se doit de suivre son maître. Alors revenons à notre ami Pierre. Jésus lui dit donc à deux reprises, suis-moi. Mais la vérité c'est que Jésus avait déjà, 3 ans auparavant, adressé à Pierre cette même invitation. Rappelez-vous, quand il était sur les rives du lac de Galilée avec son frère André, et lorsque Pierre jetait un filet dans le lac de Galilée, vous pourrez relire ces choses dans Marc chapitre 1, versets 16 et 17. Et à ce moment précis, Jésus a invité ses deux premiers disciples, à pouvoir le suivre. Jésus va leur dire « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Mais bien que Pierre, à ce moment-là, avait tout quitté pour suivre Jésus, il n'avait pas encore bien réalisé toute la portée et toute la profondeur de cette invitation. Et pour preuve, on le sait tous, Pierre renia 3 fois le Seigneur Jésus avec imprécation. Mais nous connaissons bien sûr tous la suite de l'histoire. Jésus, après l'avoir pardonné et même réhabilité, lui offrit tout à nouveau la possibilité d'obéir à son invitation en lui disant, on l'a lu en introduction, « suis-moi ». Et je crois que, quelque part, tout comme Pierre, nous aussi, aujourd'hui, nous avons besoin de réentendre cette invitation de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. « Oui, mon fils, ma fille, te dit le Seigneur ce matin, suis-moi. Suis-moi quoi qu'il arrive. Suis-moi dans le bon comme dans le mauvais jour. Suis-moi en tout temps. Suis-moi, quel que soit ce qui peut se passer dans le monde. Suis-moi dans le confinement ou hors du confinement. Suis-moi avec ou sans coronavirus. » Aussi, je vous propose de découvrir, au travers de ce passage d'introduction, ce texte d'introduction que nous avons lu, 3 vérités. Je vous propose de découvrir ensemble 3 vérités concernant le fait de suivre Jésus. La première des vérités, et qui se trouve dans le texte, c'est que tout simplement suivre Jésus, c'est accepter d'aller là où Jésus désire nous conduire. Relisons un petit peu le texte, les versets 18 et 19, Jean 21, versets 18 et 19, pour confirmer cette première vérité. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, dit Jésus, à Pierre, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et le mènera et te mènera où tu ne voudras pas. Et Jésus dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Donc Jésus, qui est omniscient et qui savait toutes choses à l'avance, était en train finalement de révéler à Pierre ce qu'il allait devoir endurer pour la gloire de Dieu. Et effectivement, d'après les historiens de l'époque, Pierre a été crucifié sur une croix, tout comme son maître, le Seigneur Jésus, mais l'apôtre Pierre aurait demandé aux soldats romains de le crucifier la tête en bas, parce qu'il ne s'estimait pas digne d'être crucifié de la même manière que son maître, le Seigneur Jésus. Et voyez-vous, trop de personnes, trop de chrétiens pensent que la seule chose qu'elles aient à faire pour être sauvées, pour devenir chrétiens, eh bien, c'est de demander premièrement pardon à Dieu pour leurs péchés, et puis ensuite passer par les eaux du baptême. Mais voyez-vous, la vie chrétienne va beaucoup plus loin que cela. Elle implique que nous puissions suivre le Seigneur Jésus, jour après jour, que nous le suivions là où précisément il veut nous conduire. Jésus d'ailleurs a dit, autre part, dans Jean chapitre 12, le verset 26, la deuxième partie du verset 26, Jean 12, verset 26, « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Et en regardant la vie de Jésus, Jésus a toujours suivi la volonté de Dieu, son Père. Jésus a accepté d'aller finalement là où son Père céleste a voulu le conduire. Pourtant, il faut l'avouer, ce n'était pas un chemin facile. La souffrance était au rendez-vous, le mépris, le rejet des autres étaient au rendez-vous. Mais par amour pour Dieu, son Père, mais aussi par amour pour l'humanité entière, par amour pour toi, mon frère, ma sœur, et pour moi-même, Jésus s'est laissé conduire, même jusqu'à la mort de la croix. Et il nous faut comprendre ce matin, et surtout être bien conscient, qu'à cause de cet amour que Jésus a manifesté pour nous, ses enfants, pour nous, ses disciples, alors en retour, nous avons besoin de nous livrer nous-mêmes, nous avons besoin de nous placer sur l'autel et finalement vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est ce que dit l'apôtre Paul, l'invitation de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. Je vous laisse le temps de chercher ce magnifique passage qui, c'est vrai, n'est pas un verset des plus célèbres. Aujourd'hui, on parle de prospérité, on parle de bénédiction, mais des paroles comme celles que nous allons lire n'est pas toujours ou peut-être pas assez prêchées dans nos églises. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Ainsi, nous devons accepter de suivre Jésus sur le chemin, j'ai envie de dire, du renoncement. Un chemin qu'il a lui-même inauguré pour nous. Ce renoncement doit être tel que nous devrions être prêts à tout sacrifier, même notre propre vie, si Dieu nous le demandait. Et voyez-vous, pour revenir à Pierre, notre ami Pierre, Pierre cette fois-ci était prêt à suivre Jésus sur un tel chemin. D'ailleurs, on n'avait qu'à regarder ses lettres, sa première épître par exemple. Pierre exhorte les chrétiens à pouvoir endurer l'épreuve et le faire pour Christ, par amour pour Christ. Il va même dire autre part, dans sa première épître de Pierre, de pouvoir s'armer de la pensée de souffrir tout comme le Christ a souffert dans la chair. Certainement, plusieurs de nos anciens connaissent ce cantique. Là aussi, un cantique qu'on n'entend plus dans nos différentes églises. Ce titre de ce cantique, c'est « La voix du Seigneur m'appelle ». Et j'avais à cœur vraiment aussi de pouvoir rappeler à votre entendement, à vos cœurs, la profondeur de ces paroles, de ce cantique. « La voix du Seigneur m'appelle », dit ce cantique. « Prends ta croix et viens, suis-moi. » Et je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Et puis le refrain de ce cantique, comme une ritournelle dit, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Le deuxième couplet dit « Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux, c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien. » Et enfin, le dernier couplet, le couplet numéro 5, « Jésus donne grâce et gloire pour le suivre à chaque pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. » Oui, Dieu te demande de pouvoir le suivre, d'accepter d'aller là où Jésus désire te conduire. Et né de crainte, comme nous venons de le lire au travers de ce cantique, Jésus donne grâce et gloire. Il donne la capacité, la force de pouvoir le suivre. Même s'il fallait traverser la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal parce que Jésus est à nos côtés, Jésus est avec nous. Ainsi, suivre Jésus consiste donc, on vient de le voir, à accepter d'aller là où Jésus désire nous conduire. Mais au travers du texte que nous avons lu, on peut aussi tirer une deuxième vérité par le passage que nous venons de lire, que nous avons lu en introduction. Nous découvrons également que suivre Jésus nous invite à ne pas regarder en arrière. Nous l'avons lu au verset 20, Jean chapitre 21, verset 20, et même jusqu'à 22, on peut le relire. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, mais toi suis-moi. » Voyez-vous, mes amis, regardez en arrière, elle peut finir par être dangereux. D'ailleurs, demandez à la femme de Lot et elle vous le confirmera. Je ne sais pas si elle aura la possibilité, parce qu'il nous est dit dans le livre de Genèse, au chapitre 19 et le verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Je ne veux pas rappeler le contexte, mais il lui était demandé d'aller en avant et de suivre, bien sûr, le chemin qu'avait indiqué l'ange pour être épargné de ce feu qui allait tomber sur Sodome et Gomorre. Mais cette femme a voulu regarder en arrière parce que son cœur y était encore certainement attaché et elle devint une statue de sel. Jésus, autre part, a dit également dans Luc chapitre 9 et le verset 62, Luc chapitre 9 et le verset 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Et pour revenir à notre ami Pierre venait de recevoir de Jésus des paroles difficiles à entendre, il faut l'accepter. Et en effet, Jésus lui avait révélé quelque part par quelle mort il allait glorifier Dieu. Et c'est alors que Pierre s'étant retourné, pourquoi s'était-il retourné à ce moment-là? Voulait-il échapper à cette réalité? Il savait que Jésus ne parlait pas en vain, parce que Jésus est omniscient, il l'a compris, et même à ses dépens. Et c'est alors que Pierre s'étant retourné et ayant vu Jean, le disciple que Jésus-Christ aimait, il posa la question à Jésus. « Et celui-ci, que lui arrivera-t-il » Et c'est alors que, on le sait, on l'a lu, Jésus répondit quelque part à la curiosité mal placée et même inutile de Pierre, au verset 22, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, mais toi, suis-moi. » Et nous aussi, nous pourrions peut-être perdre du temps à nous occuper de ce qui, au final, ne nous regarde pas. L'apôtre Paul a exhorté les chrétiens de la ville de Thessalonique en leur disant, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 10 et 11, « Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. » Et verset 11 qui nous intéresse, c'est à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, le Seigneur nous dit aujourd'hui, peu importe ce qui arrivera à ton prochain, peu importe ce qui arrivera à X ou un tel, peu importe ce qui arrivera à notre prochain, n'attachons d'importance qu'à la parole que Jésus nous a adressée, même encore aujourd'hui, à savoir, toi, mon fils, ma fille, suis-moi. savez, la vérité, c'est que si nous nous occupons soigneusement de suivre Jésus-Christ, eh bien, nous ne trouverons plus de temps de nous mêler des affaires qui ne nous regardent pas. Et peut-être, il faut être réaliste, peut-être que des personnes qui te sont chères, peut-être des amis, dans la foi, des frères, des sœurs, sont en train petit à petit d'abandonner les voies du Seigneur. Certes, mon frère, ma sœur, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, continue à prier eh bien, pour ces personnes-là. Mais ce qui est important pour toi, c'est que tu continues et que tu continues encore à suivre Jésus-Christ. Car ces choses, malheureusement, doivent arriver. Et Paul a écrit à Timothée, viens plutôt vers moi. Pourquoi ? Parce que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas était un collaborateur eh bien, de l'apôtre Paul. Mais à un moment donné, il s'est laissé séduire et a fait naufrage quant à la foi. Mais il fallait pour Timothée qu'il puisse continuer à suivre eh bien, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, à suivre les pas du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut que nous puissions faire de même. Vous savez, l'un des signes précurseurs du retour du Seigneur, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. C'est quoi l'apostasie ? C'est tout simplement l'abandon de la foi. Mais c'est aussi l'abandon de notre amour, de notre piété à l'égard de Dieu. Et Jésus a déjà révélé comment eh bien, se passera son retour. Il va dire, à cause eh bien, peut-être de l'apostasie dans les cœurs, à cause eh bien, de cette tiédeur qui peut eh bien, se trouver dans certains cœurs, la Bible dit dans Luc chapitre 17, versets 34 à 36, « Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, et l'autre laissée. » Verset 35, « De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et je ne tordrai pas le sens de l'Écriture en disant que de deux eh bien, qui partiraient à l'église, l'un sera pris et l'autre laissé. » C'est ça la réalité. Mais peu importe. Des personnes, des frères, des sœurs, même eh bien, qui seraient là eh bien, à pouvoir prendre le chemin de Démas, toi, mon frère, ma sœur, suis ton Dieu. C'est clair qu'il nous faut prier les uns pour les autres. C'est clair qu'on a besoin de s'encourager. Mais avant tout, le salut est personnel. Et nous avons besoin de regarder vers le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce qui se passe aussi dans le monde, le Seigneur te dit encore, toi, suis-moi. Garde-toi d'être troublé, car longtemps déjà, Dieu, ton Père Céleste, t'a annoncé les signes précurseurs de son avènement. Il a en effet parlé de guerre et de bruit de guerre. Il a parlé aussi qu'il y aurait des famines avant eh bien, son retour et d'une recrudescence surtout de l'iniquité. Et malgré tout cela, Jésus nous invite à continuer à le suivre afin d'être prêt pour son retour. Il dit autre part dans Luc chapitre 21, versets 34 à 36, je vous laisse le temps de trouver ce passage, Luc chapitre 21, versets 34 à 36. Il s'adresse à qui veut bien entendre. « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. » Et il rajoute, au verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » C'est donc le temps de veiller et le temps aussi de vaquer à la prière. C'est le temps de chercher Dieu plus que jamais, jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il descende finalement sur nous comme une pluie bienfaisante. C'est le temps eh bien, de pouvoir se confiner spirituellement parlant dans la présence de Dieu et dire « Seigneur, eh bien, donne-moi de l'huile dans ma lampe afin que je ne sois pas eh bien, laissé pour compte parce que tu reviens bientôt. » Alors, je voudrais terminer avec une troisième et dernière vérité. On vient de voir que suivre Jésus nous invite à ne pas regarder en arrière. Je retiens aussi eh bien, que suivre Jésus consiste finalement à le servir. Jésus a dit, Jean chapitre 12 et le verset 26, on l'a lu tout à l'heure, mais je vous la lis cette fois-ci dans la version Parole de vie. Jean chapitre 12, verset 26, version Parole de vie, il nous est dit, « Celui qui veut me servir doit me suivre, et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. » On a souvent entendu le slogan évangélique suivant « Sauver pour servir » et ce n'est pas faux, je suis totalement d'accord avec ce merveilleux slogan. Mais au vu de ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 12, verset 26, il faudrait peut-être arriver à parfaire ce slogan en disant « Sauver pour suivre Jésus afin de le servir ». Vous voyez la subtilité ? Oui, « Sauver pour suivre Jésus » dans le but de le servir. En fait, suivre Jésus, c'est être dans les conditions favorables pour le servir. Et le vrai service pour Dieu consiste à suivre Jésus dans ce qu'il a prévu pour nos vies. Et c'est pourquoi je redis qu'il n'est pas nécessaire de nous épuiser, c'est le cas de le dire, eh bien, dans toutes sortes d'œuvres ou d'activités que le Seigneur, d'ailleurs, ne nous aurait jamais demandé de faire, personnellement. Vous savez, des idées, on peut en avoir à foison. Mais ce qui nous importe, c'est de pouvoir suivre Jésus dans ce qu'il a prévu, lui, pour chacune de nos vies. Et on le sait, la Bible nous le rappelle, le Seigneur, il a déjà préparé à l'avance des œuvres pour chacune de nos vies. D'où quelque part l'importance, oui, de se tenir devant Dieu et de prier comme l'a fait d'ailleurs l'apôtre Paul, juste au début de sa conversion. Il a compris les choses très rapidement, c'est une grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur. Il a posé deux questions, « Seigneur, qui es-tu » Et la deuxième question qui est importante pour nous, et je précise, c'est au début de sa conversion, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Oui. Mais quelqu'un pourrait dire, « C'est beau tout cela, mais moi je suis avancé en âge. Que veux-tu que je fasse encore pour Dieu ?» Certains disent « place aux jeunes ». Mais quand j'observe par exemple un psaume comme le psaume 71 et le verset 18 où il nous est dit la chose suivante « ne m'abandonne pas, ô Dieu ». C'est une prière, c'est la prière de l'auteur bien sûr de ce psaume. Certains commentateurs pensent que c'est David qui a écrit ce psaume, on n'en sait rien exactement. Mais il nous est dit au travers de ce verset 18 « ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin » et c'est ça qui nous intéresse, « que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » Et juste par ce verset, on pourrait supposer que l'auteur de ce psaume était quelque part avancé en âge. Il parle de blanche vieillesse et pas seulement à cet endroit, dans ce même chapitre 71, à plusieurs reprises. Je pense que l'auteur de ce psaume était avancé en âge lorsqu'il a composé ce psaume. Et je note avec vous eh bien, qu'il était encore plein de zèle pour servir Dieu dans sa génération, puisqu'il a dit « Seigneur, ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse. » Et il donne la raison. Il ne dit pas « afin que je n'ai plus eh bien, de courbature, afin que je n'ai plus eh bien, de l'arthrose. » Non, son souci à lui, c'est « afin que j'annonce ta force à la génération présente et ta puissance à la génération future. » C'était quelqu'un qui était rempli de zèle et qui était conscient que tant qu'on est en vie, frères et sœurs, eh bien on peut être utile entre les mains de Dieu. Il suffit de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et surtout, Seigneur, me voici eh bien, pour te servir. Un peu à l'exemple de cette femme, Anne, fille de Phanuel, vous connaissez son histoire, 84 ans. Cette femme a été mariée 7 ans avec, bien sûr, son mari, puis ce dernier est décédé, elle est restée veuve. Et puis, malgré tout, elle a continué à servir Dieu. Et la Bible nous dit, eh bien, alors qu'elle avait 84 ans, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière et elle ne quittait pas le temple. Et cette femme était là au bon moment eh bien, pour accueillir la venue du Sauveur Jésus-Christ. Elle a eu la prééminence de voir de ses yeux, alléluia, la gloire de Dieu, la venue de ce Sauveur qui allait bouleverser, changer toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'était une femme eh bien, qui était remplie de pouvoir eh bien, non seulement servir Dieu, mais aussi de suivre Jésus, quoi qu'il arrive. Je voudrais terminer, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans un autre passage, Marc chapitre 1 et le verset 17, ce qu'il est dit, c'est Jésus qui parle et qui s'adresse à ses disciples. Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». voyez cette relation de cause à effet, suivez-moi, et, qui est une conjonction de coordination, je vous ferai pêcheur d'hommes. Notons que c'est Jésus qui se propose de nous façonner. Il a dit, je ferai de vous. Donc quelque part, Dieu se charge de te qualifier, mon frère et ma sœur. Dieu se charge de nous façonner, de nous rendre aptes, pouvoir être bien disponible entre ses mains. Dieu se charge de nous qualifier. Et Paul affirme que c'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Mais il faut surtout noter, surtout que la condition est d'abord de suivre le Seigneur Jésus. Jésus l'a dit, suivez-moi et alors je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alors suivons Jésus et lui-même nous montrera comment le servir. Suivons Jésus et lui-même nous qualifiera pour que nous puissions porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Suivons le Maître et il nous montrera ses plans. Tout est arrêté. Ne soyons pas troublés par ce qui se passe dans ce monde. Tout est, le Seigneur est assis sur son trône et il règne. Et tout ça était prévu dans son plan. Il sait ce qu'il y a lieu de faire. Quand je comprends juste la chose suivante, c'est qu'au travers bien de ce temps d'épreuve qui s'abat sur toute la surface de la terre, plus de 40% bien de Bibles sont vendues dans le monde en plus. Les gens, bien certains sont inquiets et il a fallu bien cette épreuve pour qu'ils puissent se tourner vers Dieu et finalement plonger leur regard dans la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur est en train bien de rassembler les dernières brebis qui doivent entrer dans la bergerie avant son prochain retour. Oui, les choses s'accélèrent et plus que jamais nous avons besoin de ne pas perdre de vue les traces de pas que le Seigneur nous a laissées afin de suivre son exemple, afin de le suivre lui. Mon frère, ma sœur, avance, suis le Seigneur, regarde à lui. Alors en conclusion, que dire ? Eh bien, je veux juste rappeler, conclure, en rappelant les trois vérités que nous avons vues ensemble concernant le fait de suivre Jésus. En effet, nous avons vu premièrement que suivre Jésus, c'est accepter d'aller là où Jésus désire nous conduire. La vie chrétienne, ce n'est pas « Seigneur, suis-moi dans mes projets, suis-moi dans ce que je veux faire, dans mes rêves, dans mes… » C'est suivre Jésus là où il veut nous conduire. Et là où il veut nous conduire correspondra toujours à notre épanouissement. On a vu deuxièmement, suivre Jésus nous invite à ne pas regarder en arrière, mais à toujours suivre Jésus, quel que soit ce qui peut se passer autour de nous ou même dans le monde. Et puis enfin… Troisième et dernière vérité que nous avons vue ensemble, suivre Jésus, consiste à servir ce dernier dans ce qu'il a prévu pour nos vies. Que Dieu nous aide à comprendre toutes ces choses, que Dieu nous aide surtout à les mettre en pratique et que nous soyons reconnus comme étant de véritables disciples de Jésus et surtout que nous soyons fin prêts pour son retour imminent, parce que le Seigneur est à la porte. Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse.